France Culture. À voix nue, Caroline Brouet.
François Calabre, je suis charpentier et ethnologue.
Premier épisode, du bois aux mots. Bonjour François Calame.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci de nous recevoir chez vous, à Rouen, dans votre maison. De fait, la Normandie occupe une place particulière dans votre vie, donc il était important que nous venions jusqu'ici pour ces 5 épisodes. Une autre singularité fait de vous, à la fois, vous l'avez dit, un charpentier et un ethnologue. Vous nous direz dans quel sens vous préférez qu'on le dise, puisque vous avez commencé par charpentier, je crois que vous avez déjà donné la réponse. Mais en tout cas, vous êtes un ethnologue passionné de charpente ancienne, formé au métier du bois et devenu spécialiste de la transmission des savoir-faire, ce que vous avez défendu en tant que charpentier et en tant qu'ethnologue. À ce titre, vous avez créé un réseau international de spécialistes et de praticiens de la charpente en bois, intitulé « Charpentiers sans frontières ». Vous êtes à l'initiative avec cette association, ce collectif de différentes rencontres et de projets de charpentiers du monde. Et à ce titre aussi, vous avez participé à l'un des plus grands chantiers de ces dernières années, à savoir la restauration de Notre-Dame de Paris. Et nous y reviendrons, bien entendu, dans le dernier épisode de ces entretiens. Mais d'abord, revenons aux origines, c'est-à-dire comment on devient un ethnologue passionné par le bois. Comment on devient un charpentier fort des savoir-faire, fort de la transmission des savoir-faire artisanaux. Alors comme vous avez dit que vous étiez un charpentier et un ethnologue, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a été premier chez vous. Je me dis que quand on est enfant, on pense peu à dire « je rêve d'être ethnologue ». Quoique, peut-être qu'en revanche le travail du bois, enfant, est premier.
Je dirais que comme ethnologue, j'ai été finalement trimballé, volens nolens, le voulant ou sans le vouloir, par des ascendants très forts qui ont été mon grand-père Marcel Griol et ma mère Geneviève Calame Griol, qui ont été des africanistes extrêmement réputés et passionnés par le continent africain et par la découverte de l'autre, par l'altérité. Et je me suis juré pendant des années de ne jamais pratiquer ce métier. Et puis évidemment, il m'a rattrapé par les pieds. Et c'est finalement tardivement que j'ai pu me prévaloir, éventuellement en tant qu'imposteur, mais me prévaloir de cette étiquette d'ethnologue que j'ai pratiqué pendant 37 ans au sein du ministère de la Culture. La vocation de charpentier, là encore, c'est de l'imposture, mais après tout, elle nous forme, elle nous conduit, elle nous modèle et éventuellement nous inspire. Elle m'est venue un peu par hasard. Mes parents avaient acheté une vieille maison pleine de charme en Picardie et j'ai usé mes fonds de culotte étant enfant. À parcourir les chemins vivants et noircis des poutres de ces très belles charpentes du XVIIIe ou du XVIIe siècle qu'il fallait longer adroitement sans se casser la figure et j'étais fasciné à cette époque donc ça remonte à mais avant la dizaine j'étais fasciné par la lecture, la découverte de cet alphabet ésotérique qu'utilisent les charpentiers pour numéroter et identifier les pièces d'une charpente qui peut être très complexe en utilisant des codes qui sont parfois intelligibles et qui sont parfois uniquement réservés à un initié qui est celui qui a conçu cet ouvrage. Et cet univers de bois m'a hanté et continue de me porter depuis voilà, un certain nombre de dizaines d'années.
Je voudrais quand même qu'on revienne sur le travail de votre grand-père illustre, Marcel Griol, qui en plus est mort 6 mois avant votre naissance. Donc, votre acte de naissance en 1956 correspond à son décès. Et peut-être avez-vous aussi inscrit, malgré vous, dans les gènes, cette volonté, ou en tous les cas, même s'il n'était pas consciente, mais de transmettre ce que votre grand-père a fait. Vous l'avez fait, d'ailleurs, de transmettre dans un film sur lequel on reviendra dans quelques secondes. Mais d'abord, un mot sur Marcel Griaule. Marcel Griaule, c'est, vous avez dit, un africaniste. Il se trouve que ça a été le premier titulaire d'une chaire d'ethnologie en Sorbonne en 1942, fondateur de l'ethnologie de terrain à travers une mission qui a été rendue célèbre par cette mission elle-même, qui était la mission Dakar-Djibouti en 1931, et au cours de laquelle il va découvrir le pays d'Ogon, sur lequel il a travaillé toute sa vie. Et je vous parle en face de vous, avec à ma droite le fauteuil qui appartenait à votre grand-père, un gros fauteuil de cuir rouge, près de l'âtre, dans la cheminée, duquel d'ailleurs brûle un feu, et c'est très agréable, parce qu'il ne fait pas très chaud chez vous, enfin à l'extérieur, à Rouen. Et vous vous êtes assis, vous avez choisi votre place dans un canapé, vous avez choisi d'être assis entre deux masques d'Ogon qui sont au mur. Et avant même de parler de votre grand-père et de son travail, j'aimerais que vous nous parliez de ces deux masques qui me regardent, mais qui vous encadrent comme s'ils étaient posés sur vos épaules.
C'est sûr que c'est un héritage symbolique qui est lourd, hein, qui est riche, qui ne laisse pas de poser des questions quotidiennement depuis que je suis en vie. Ces deux masques d'Ogon, c'est moi-même qui les ai rapportés quand j'ai eu la chance de visiter avec ma mère le pays d'Ogon à deux reprises. Ce ne sont pas des pièces de musée, ce sont des masques, je dirais modestement, qui ont peut-être dansé il y a une trentaine d'années, portés par des membres de la société des masques d'Ogon. Ce sont des masques d'antilope, ce sont des pièces assez courantes, mais qui évidemment m'aident à matérialiser ce rapport symbolique que je ne peux que porter vis-à-vis de ce passé très riche et de cette rencontre, cette réciprocité qui s'est nouée entre mes ascendants, précisément Marcel Griaule et puis ma mère, à partir de 1946, avec le peuple d'Ogon, une relation de réciprocité extrêmement forte qui s'est nouée tout au long de la vie de ces deux personnes. Donc à partir de 31, comme vous le disiez, pour Marcel, à partir de 46 pour ma mère, mais des relations qui ont conduit à ce que Griaule lui-même soit quelque part considéré à un moment donné par le peuple d'Ogon lui-même comme faisant partie de la famille. C'est-à-dire que Griaule a lui-même bénéficié en 56 à sa mort d'un enterrement symbolique par un certain nombre de villages d'Ogon, de la falaise, qui s'étaient regroupés pour manifester, pour rendre public une séance de funérailles particulièrement mémorable, où ils se sont groupés, les danseurs de différents villages se sont regroupés pour réaliser cette séance de funérailles dans laquelle le corps du défunt était représenté par un mannequin. Griaule avait été enterré déjà à Paris. Mais
un mannequin habillé comme était Griaule.
Un mannequin habillé avec ses vêtements de terrain. En 56, Griaule portait encore le casque colonial en liège. Voilà, il faut replacer les choses dans leur
contexte,
dans leur époque. On était encore dans un système colonial, mais la relation que Griaule et ses collaboratrices, ses collaborateurs avaient noué avec le peuple de Gond étaient des relations d'une amitié extrêmement profonde qui, j'en suis persuadé, dépassait très, très largement un cadre de type administratif, autoritaire ou colonial. Donc cette relation a évidemment joué un rôle très fort dans l'élaboration de ma personnalité, même si je n'en ai pas toujours été conscient. Jusqu'à une date récente, j'ai conservé autant que possible des relations d'amitié à distance avec notamment le village de Sanga sur la falaise de Bandiagara.
C'est au Mali, hein, on n'a pas précisé.
C'est au Mali. Donc aujourd'hui, quand on parle au Dogon de Griol, ce n'est pas seulement évoquer quelqu'un qui était un personnage colonial qui est mort en 56, c'est aussi quelqu'un dont le rôle se lie encore aujourd'hui dans les activités et quelles que soient les péripéties malheureuses et tumultueuses auxquelles est confronté aujourd'hui le Sahel.
On entend François Calam quand vous évoquez la figure fantôme de ce grand-père, une forme d'émotion. Vous avez tenu à, je ne sais pas si c'est rendre hommage à son travail, mais en tous les cas, à ce que son travail soit connu. Et vous avez tenu à vous rendre vous-même sur les traces de cette relation entre Marcel Griol et les Dogon, en convainquant une chaîne de télévision en 1998-99 de faire un film sur lui. Cette chaîne, c'est Canal+. Et le film a été fait. Il a été réalisé par Jean-Jacques Flory et Marianne Lamour. Il s'intitule « Au pays des Dogons, l'aventure africaine de Marcel Griol ». Il est disponible sur Internet, on peut le voir. Il fait 4 épisodes de 15 minutes. Et c'est votre voix qui fait la narration. Ça veut dire que vous vous êtes rendu dans ce village de Sanga, de votre grand-père, que vous avez pris des notes, travaillé, rencontré des gens, discuté avec eux. Est-ce que par ce voyage, vous avez eu et par ce film, vous avez eu le sentiment, peut-être de l'avoir rencontré, ce grand-père mythique?
Ça a participé, bien sûr, à un travail intérieur très fort, nécessairement, la confrontation avec la réalité, avec les personnes, même si... En 97, évidemment, je n'ai rencontré qu'une seule femme très âgée qui se rappelait avoir rencontré mon grand-père. Tous les autres témoins étaient évidemment des gens beaucoup plus jeunes. J'ai fréquenté les lieux, nous avons pu retrouver un certain nombre de lieux très directement identifiables à partir des documents de l'époque. Cette confrontation était forcément très... très, très puissante pour moi-même, c'est certain. Le film a été un film de qualité, réalisé par des gens passionnés. Bien entendu, il obéissait nécessairement à un certain nombre de règles qui m'échappent. Je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas producteur. Voilà, forcément, nécessairement, il y avait un certain nombre de compromis que j'ai dû nécessairement... Par exemple, je n'avais absolument pas imaginé une seconde que moi-même j'entrerais dans le champ de la caméra. Ce n'était pas mon but. Mais voilà, bon, ça qui m'a forcé évidemment à faire nécessairement un travail sur le plan personnel, qui était forcément salutaire et parfois douloureux.
Vous disiez que Marcel Griol avait fini par faire partie de la grande famille des Dogons. Ils vous ont, vous-même, désigné successeur spirituel de votre grand-père?
Oui, alors ils m'ont identifié comme le... Je reprends maladroitement le terme que les Dogons m'ont attribué. Je suis, selon eux, le nani de mon grand-père, c'est-à-dire une forme de réincarnation. C'est difficile, effectivement, à la fois à prononcer. Vous voyez, j'ai même du mal à le verbaliser. Et puis, bien sûr, à le ressentir, à l'actualiser. Voilà. Quand on vous attribue un héritage de ce type, ben voilà, il faut être à la hauteur. Il faut en assumer les charges émotives. Il faut, on ne peut pas prétendre évidemment rivaliser avec la forte personnalité qui vous a précédé. Il faut s'en inspirer, en prélever l'énergie, la force vive qui doit nous conduire.
Un grand-père ethnologue, une mère ethnologue aussi. Vous disiez, François Calame, qu'elle vous avait emmené à deux reprises en Afrique de l'Ouest en 1972 au Niger et en Pays d'Ogon en 1974, si je ne m'abuse. Et de l'autre côté, quand même, un père violoniste. Alors, vous auriez pu aller vers la musique. Son travail l'emmenait aux quatre coins du monde. Mais vous vous êtes plutôt dirigé vers des études d'ethnologie.
Au départ, je me suis dirigé ni vers l'un ni vers l'autre. C'était plutôt des portes fermées, que je m'étais probablement fermé moi-même. La musique, c'est resté le domaine de mon père. Il n'a pas particulièrement cherché à me transmettre... je ne sais pas lire le solfège, je ne sais pas jouer d'instrument de musique, et ce domaine m'était fermé. L'ethnologie, je n'osais pas y toucher, ça n'était pas mon domaine non plus. Voilà.
À ce moment-là, vous ne vous situiez pas encore.
Voilà, je n'avais pas de...
Voilà, donc comment êtes-vous venu à ces études d'ethnologie? Pas des études sur l'Afrique. Ça a d'ailleurs sauté une génération, puisque je crois que votre fille a passé 15 ans en Afrique noire entre humanitaire et diplomatie, mais pas vous. Mais l'ethnologie alors?
Par la construction, par le geste de bâtir, par le bois, c'est le matériau en fait qui m'a guidé. La fascination pour la maison. La maison, l'habitation est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours en tête un conte d'Andersen absolument extraordinaire que j'ai toujours en tête. Où je crois que ça s'appelle La vieille maison. Je crois que c'est un conte assez court. J'ai toujours le livre avec ses gravures danoises du début du 19e siècle qui donne avec une profondeur énigmatique très très forte l'atmosphère de ces maisons anciennes dans lesquelles on se perd et on se retrouve au fur et à mesure de la découverte des cachettes. Ça, c'est quelque chose qui m'a conduit, d'autant que toute mon enfance a été passée également pendant les vacances, notamment les vacances d'hiver, à aller retrouver la maison de famille de mes grands-parents suisses qui
du côté paternel.
Paternel, donc cette maison de famille qui reste pour moi un univers onirique extraordinairement fort, dont je rêve presque chaque nuit, extrêmement fort. Donc cette notion de maison est certainement quelque chose qui m'a conduit vers le geste de bâtir, le geste de la construction est certainement un geste fondateur pour mon travail.
Mais alors, moi en vous écoutant, naïvement et ou peut-être trivialement, je me dis, mais alors quand on est fasciné par le geste de bâtir et par la maison, on va soit vers la maçonnerie, soit vers l'architecture, mais on va pas spécialement ni vers la charpenterie, ni encore moins vers l'ethnologie de la charpente. Donc, y a quelque chose qui m'échappe. Comment vous en êtes venu, François Calame, à soutenir une thèse d'ethnologie sur le thème de la charpente à l'École des hautes études en sciences sociales en 1983? Alors, il y a les ascendants. Bien entendu. Mais enfin, quand même.
Je pense que le matériau bois a exercé un pouvoir magique sur moi. C'est un des aspects de la construction. Il y a mille autres façons de bâtir que j'ai expérimenté par ailleurs dans d'autres circonstances. Par exemple, la construction en terre est aussi un thème qui m'a beaucoup fasciné. Mais la présence du matériau bois et la dimension extraordinairement vivante et symboliquement forte du matériau ligneux, de l'arbre, du rapport direct entre l'être humain et l'arbre, qui est son, son grand frère et son voisin immédiat est quelque chose qui m'a porté, transporté vers cette recherche progressive où petit à petit j'ai tenté d'explorer ou de vérifier par moi-même comment la relation, le geste de bâtir pouvait se dérouler entre des êtres humains qui ont envie d'aménager leur lieu de vie, leur lieu d'intimité à partir de matériaux forestiers qui est notre voisin de chaque coin de rue, de chaque coin de forêt. C'est ça qui m'a conduit à ce travail de recherche qui a abouti à la fin à une thèse d'ethnologie.
Peut-être d'ailleurs en vous écoutant, on pense à quelque chose qui est peut-être de l'ordre encore une fois de l'inconscient, mais de fait, votre grand-père, Marcel Griaule, s'était aussi passionné pour les masques, en particulier les masques d'Ogon. Or, beaucoup de ces masques, et en particulier ceux que vous avez chez vous d'ailleurs, sont taillés dans du bois. Et par ailleurs, le travail de Marcel Griaule s'est aussi beaucoup porté sur les habitats traditionnels des Dogons, sur l'architecture, sur les matériaux. Donc il y a ça aussi peut-être qui a, au fil des ans, infusé en vous, jusqu'à deux rencontres déterminantes en 1981. En 1981, au moment où vous préparez votre thèse, vous faites la rencontre d'un bûcheron croate dont vous avez encore des outils, des haches en l'occurrence, 3 kilos, dans votre atelier, dans le jardin. Ce bûcheron croate, il vous apprend énormément de choses. Et puis la deuxième rencontre, qui est la même année, je crois, c'est un charpentier picard, cette fois, qui avait pour nom Dubois, ça ne s'invente pas. Vous nous parleriez de ce que vous a appris, notamment ce bûcheron croate, qui a été vraiment très important pour la suite.
Dans le cadre de mes recherches en anthropologie, en ethnologie appliquée, j'étais fasciné par ces maisons de bois qui, dans un certain nombre de régions du nord de la France, sont omniprésentes. Il y a un parc immobilier très très important de maisons en bois, dont beaucoup ont été construites bien avant la guerre de 1914. Et la fascination, ce fantasme qui m'habitait donc depuis ma petite enfance, c'était de comprendre comment ces maisons avaient pu voir le jour, comment ce rapport avec le matériau vivant d'où ces maisons étaient extraites, la forêt, le bois qui nous entoure, comment la chaîne était rompue, c'est-à-dire j'avais ces maisons, l'image de ces maisons anciennes qui avaient merveilleusement vécu et qui continuaient de nous envelopper. Et puis de l'autre côté, les êtres humains, les bâtisseurs, et le lien était rompu. Et j'étais fasciné par retrouver le moyen de lier ces personnes et ces éléments. Et dans mes interrogations, ça se passe en 1981... Il existait encore beaucoup de personnes âgées qui étaient nées à la fin du 19e siècle, des gens qui avaient connu les deux guerres mondiales, des gens qui avaient connu un autre système agraire et économique que celui de la fin du 20e siècle. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver des gens capables de témoigner de ça. C'est-à-dire, je rencontrais par exemple des vieux charpentiers, certains même avaient fait la Première Guerre mondiale, et ils me racontaient qu'en 1918, ils construisaient déjà des charpentes industrielles, qui étaient des charpentes d'ingénieurs, sciées avec des engins mécaniques, et ils n'apportaient pas de réponse à mes questions, et ces rencontres dont vous venez de parler ont été tout à coup des très très fortes expériences. Un jour, on me dit, bon bah écoute, tu nous barbes avec tes recherches, mais enfin finalement on va t'indiquer au fond de la forêt, celui que tu cherches, il existe. Et je suis allé dans un petit village de Picardie, de la région de Beauvais, qui s'appelle la Neuville-en-Haye, qui est au bord d'une magnifique forêt domaniale qui est la forêt de Haye, forêt géré par l'ONF, et se trouvait un extraordinaire bûcheron croate qui était arrivé en France en 1937, qui avait fondé famille, qui avait épousé une Française, une Picarde, Renée, avec qui il avait eu plusieurs enfants que j'ai bien connus, et cet homme s'appelait Ivan Urbija. Et cet homme m'a beaucoup marqué Un petit montagnard extrêmement sec, musclé, robuste, avec un sourire en permanence et une bienveillance qui animait dans tous ses gestes, toute sa pratique était empreinte de soin. Il avait quitté en 1937 la Croatie, la frontière slovène, avec un certain nombre de ses compatriotes qui avaient été démarchés à l'époque par des forestiers français. En 14-18, beaucoup de bûcherons français étaient morts à la guerre. Et j'ai des photos que m'a laissé Ivan, qui date d'avant la Deuxième Guerre, où il est en groupe avec des collègues, des amis, des cousins forestiers, croates pour la plupart, mais qui travaillaient en bonne intelligence avec des bûcherons français et qui vivaient à l'époque en forêt. C'est-à-dire qu'en famille, ils construisaient des huttes forestières, des cabanes, sur les lieux même de la coupe, et organiser leur travail. Les enfants jouaient, on voit sur les petites photos que j'ai toujours, qui sont très émouvantes, on voit les enfants qui jouent avec des balançoires qui sont réalisées par des poutres que les bûcherons ont taillées, et ils faisaient des jeux d'équilibriste dans la forêt, et les épouses donnaient la main pour tirer le passe-partout, la scie qu'on appelle la belle-mère. C'est une scie à deux mains et qui permettait de couper, de débiter des arbres énormes, des chênes et des hêtres, qui étaient ensuite façonnés entièrement à la main avec les fameux outils que vous avez vus. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune mécanique qui intervenait du début jusqu'à la fin. Et les exploitants forestiers qui, donc, jusque dans les années 1955, ont continué de faire travailler ces bûcherons croates, avaient trouvé une rentabilité économique totale avec cette chaîne extraordinairement courte dans laquelle le bûcheron arrivait sur place, façonnait entièrement à la main et produisait immédiatement la matière première qu'il livrait ensuite bord de route, et là, les camions, le système industriel venait se greffer dessus. Et ces bûcherons croates, qui étaient d'extraordinaires professionnels, nous ont transmis, j'ai joué un modeste rôle dans cette transmission, mais nous ont transmis le savoir-faire qui a permis, à partir de 2019, de reconstituer la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a une filiation qui s'est produite par ce biais.
Et cette filiation est aussi une filiation entre notre premier épisode du jour et le dernier de cette série, puisque nous parlerons de la charpente et de la restauration de la charpente de Notre-Dame de Paris dans le cinquième épisode. Merci beaucoup, François Calame. On se retrouve demain pour l'épisode 2.
Merci à vous.
À suivre l'épisode 2, un ethnologue au ministère de la Culture. C'était À Voix Nue avec François Calame, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.